Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième lettre de Pierre et nous allons lire le chapitre 2 en entier. De Pierre, chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation. Et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ceux qu'il voyait et entendait de leurs œuvres incriminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant Dieu, devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Nous avons déjà vu au chapitre 1er que Pierre écrit cette lettre pour exhorter les croyants de manière positive à affermir leur élection et leur vocation en s'appuyant sur les promesses et sur la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit de Dieu lui-même. Ils ont vu la semaine dernière que Pierre écrit ce chapitre 2 toujours avec ce même objectif. Mais il l'aborde avec un autre angle. Il avertit et il condamne les faux docteurs, les faux enseignants, des personnes qui prennent des responsabilités au sein de l'Église, mais pour éloigner ou pour tenter d'éloigner le peuple de Dieu, pour satisfaire leur propre chair au nom de la liberté chrétienne. Pierre dit, ces personnes connaîtront la perte, la condamnation, la ruine. Dans les versets 1 à 10 que nous avions abordés la semaine dernière, Pierre parle du dérèglement, de l'hérésie morale, et parle de ces faux enseignants qui renient le maître, qui n'acceptent pas l'autorité du Seigneur Jésus-Christ et de sa parole. Et ils le font en enseignant, en encourageant l'immoralité au nom de la liberté chrétienne. Paul lui-même avait déjà réalisé le danger de cela. Par exemple, quand il aborde la question au Romains chapitre 6, et il pose cette question, « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Loin de là. Mais voilà, Pierre fait face à ces faux enseignants qui, eux, justement, ne suivent pas l'apôtre Paul et eux enseignent l'immoralité. Et dans la deuxième partie de ce chapitre, il y a plusieurs leçons que nous voulons voir, que nous voulons tirer. Nous allons diviser cela en quatre. L'apôtre Pierre, tout d'abord, met en évidence l'orgueil, l'autosuffisance de ces faux enseignants. Ensuite, il parle de leur immoralité et de l'amour pour l'argent. Il parle ensuite que leur enseignement, en fait, n'est que du vent. Et finalement, il termine en soulignant le danger que représentent ces faux enseignants pour les jeunes croyants ou pour ceux qui sont mal affermis. Et en mettant en avant ces dangers et en nous donnant ces avertissements, nous allons en retirer aussi des leçons pour nous. Premièrement, donc, tout d'abord, l'apôtre Pierre va souligner le caractère de ces faux enseignants qui sont audacieux, qui sont arrogants, qui sont injurieux. Nous avons cela dans les versets 10 à 13. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi leur salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Il y a, au verset 10, cette expression « injurier les gloires ». Et il y a deux interprétations possibles. La première, on peut comprendre cette expression « les gloires » comme étant les anges déçus dont Pierre parle, par exemple, au verset 4 de ce même chapitre. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Et Pierre dirait à ce moment-là ceci, ces faux enseignants sont tellement arrogants, tellement suffisants en eux-mêmes, qu'ils injurient les esprits mauvais, comme si eux-mêmes étaient préservés de toute influence mauvaise qui serait surnaturelle. Et pour mettre en avant l'arrogance de leur sécurité, ou de leur fausse sécurité, devrais-je dire, Pierre dit que même les anges qui sont bons, qui sont fidèles, qui sont plus forts, qui sont supérieurs en force et en puissance, même ces anges bons ne prononcent ni injure ni jugement contre les mauvais, mais ils restent humbles et ils laissent le jugement à Dieu. Ils ne portent pas, à la fin du verset 11, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Et on retrouve, par exemple, cela dans la lettre de Jude, au verset 9, où Jude écrit « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime. » Et Pierre, de dire que ces faux enseignants n'ont pas cette humilité, mais ils osent, eux, injurier condamner ceux qui sont ces anges déchus. La deuxième interprétation, qui me paraît peut-être plus fidèle au contexte, c'est que ce terme de gloire fait plutôt référence à la gloire de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, en particulier en ce qui concerne le retour de Christ. Pierre a déjà utilisé ce terme dans sa première lettre, par exemple, au chapitre 1er et au verset 11, quand il parle de ce que les prophètes ont cherché à comprendre le message qu'ils avaient reçu de la part de Dieu. Et il dit ceci, verset 11, « Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. » Et dans cette deuxième lettre, Pierre utilise ce terme en rapport avec le retour de Christ. Nous l'avons vu par exemple au chapitre 1er et au verset 17 et 18, où Pierre écrit « Car Christ a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Une gloire que Pierre et les autres ont vue sur la montagne de la Transfiguration, qui annonçait la gloire et qui annonce la gloire qui va accompagner le Seigneur Jésus-Christ lors de son retour sur cette terre. Et Pierre dira un peu plus loin dans le chapitre 3 de cette même lettre, au verset 3 et 4, que justement la question du retour de Christ était le sujet de moquerie de la part de ces faux docteurs, de ces faux enseignants. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra les moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Le retour de Christ est le sujet de moquerie de la part de ces personnes. Et le terme donc de gloire que Pierre utilise ici au verset 10 du chapitre 2 seraient les gloires de Dieu et de Christ en particulier par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Pierre de dire au verset 11 que les anges supérieurs en force et en puissance à ces faux docteurs ne portent pas contre elles les gloires entourant le retour de Christ, de jugement injurieux devant le Seigneur, que les anges ne portent pas de jugement, ils laissent le jugement à Dieu. Et c'est ce contraste qui met en avant l'état arrogant, l'esprit vaniteux, suffisant de ces faux docteurs. Les anges eux-mêmes se soumettent à l'autorité divine pour tout ce qui concerne le jugement. Mais ces faux docteurs, ces faux enseignants méprisent l'autorité de Christ. Et ils s'élèvent au-dessus des anges, au-dessus même des anges qui sont supérieurs en force et en puissance, pour injurier les gloires de Dieu, pour injurier le retour de Christ, pour renier cette réalité, pour renier cette glorieuse réalité du retour dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre rajoute au verset 12 que ces faux docteurs agissent, sont comme des brutes, comme des animaux. Ils sont ignorants. Ils ne savent pas de quoi ils parlent et ils seront détruits. Ils connaîtront une fin semblable à celle des animaux. Ils périront par leur propre corruption. Et là, nous avons une leçon déjà pour nous, une mise en garde pour nous. C'est-à-dire qu'il nous faut veiller à ne pas être enflés d'orgueil, comme ces faux docteurs, pas d'être enflés d'un orgueil spirituel. Nous dépendons de la grâce de Dieu à chaque instant. Et même si l'on avance dans la vie chrétienne et que l'on comprend davantage les choses, on ne peut pas se glorifier de quoi que ce soit, d'une prétendue autosuffisance. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas tomber dans ce piège de penser que sommes arrivés à un but, mais que nous devons veiller sur nous-mêmes de ne pas être enflés d'orgueil au point de penser que nous pouvons être supérieurs aux serviteurs parfaits qui sont les anges. Nous avons des privilèges, mais nous devons rester humbles dans notre position. Voilà la première chose que l'apôtre Pierre soulève ici. Ces faux docteurs sont arrogants, sont injurieux. La deuxième chose qu'il soulève, c'est que ces personnes aiment le plaisir et ces personnes sont insatiables. La deuxième partie du verset 13 et jusqu'au verset 16. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. C'est ce qui fait leur bonheur. Ce n'est pas de faire les choses chez eux dans le secret, mais c'est de faire les choses en plein jour, de vivre leur vie immorale en plein jour. Et c'est d'essayer d'attirer d'autres à suivre dans leur mauvaise voie. Pierre ne dit pas comment ces faux enseignants vont faire pour gagner de l'argent. Mais la référence à Balaam nous donne quand même un indice. Balaam, rappelez-vous, ce prophète, lorsque le peuple d'Israël s'approchait de Moab, le roi Balak a pris peur. Il craignait ce peuple et il appelle Balaam, ce prophète, et lui donne de l'argent en lui disant, va et maudis les Israélites. C'est le zoom que nous avons ici au verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. Balaam est tombé dans ce piège. Il a agi par amour pour l'argent, surtout en contrepartie de ses services prophétiques. Et ces faux docteurs agissent de même. Ils agissent en facturant, si l'on peut dire, leur enseignement. Si vous payez quelque chose, vous allez prendre la chose de manière plus sérieuse. Mais on a cet esprit encore aujourd'hui où on entend dans certains milieux des personnes qui demandent sans arrêt. Il y a une expression qui revient dans certains milieux qui est celui de semer votre semence. L'argument, en résumé, il va ainsi, mais il dit comment pouvez-vous avoir foi dans une récolte abondante si vous ne semez pas avec foi votre semence de 1000 dollars? Et il y a des appels comme cela. Et ces hommes, ces femmes, aujourd'hui, deviennent riches et profitent. Profitent. Et comme dit Pierre, ici au verset 14, ils profitent des âmes mal affermies. Des âmes mal affermies. Et plus loin, au verset 18, il dit, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Et là encore, une deuxième leçon pour nous. Puisque ces personnes s'attaquent plus particulièrement à celles qui sont mal affermies, la leçon pour nous, c'est bien sûr de veiller à ce que nous soyons affermis dans la vérité, de veiller à ce que nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent, ceux qui sont avec nous, la génération suivante, soit elle aussi affermie, fondée sur la parole de Dieu, fondée sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu tout à l'heure ce passage en Colossiens où Paul nous rappelle qu'il nous faut nous exhorter les uns les autres, nous encourager les uns les autres et nous instruire les uns les autres et nous laisser instruire par la parole de Dieu. Donc Pierre ici condamne, mais dans cette condamnation, nous avons une leçon pour nous de veiller sur nous-mêmes à être affermis, bien affermis dans la parole. Ces faux docteurs, donc, aiment le plaisir et sont insatiables, aiment l'argent. La troisième chose que Pierre souligne, c'est que ces faux docteurs sont des fontaines sans eau, des nuées qu'un tourbillon chasse. Verset 17. Et là, on peut très bien imaginer la scène où on est dans le désert, on n'a plus d'eau. On voit au loin une oasis, un oasis avec des arbres, avec de l'herbe. On court, on s'y jette, et puis il n'y a pas d'eau. Du moins en surface, il n'y a plus rien. il n'y a rien à boire. Et ces nouveaux, ces faux enseignants promettent de nouvelles expériences, promettent de nouvelles interprétations, promettent une nouvelle liberté. Mais ils passent, ils ne restent pas. C'est comme la mode, elle change sans arrêt. On peut penser dans l'histoire, il y a eu, même il n'y a pas si longtemps que cela, on parlait beaucoup de la troisième vague. On parlait beaucoup de Toronto. Est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? On parle d'autre chose. On parle d'autre chose. Et là encore, la leçon pour nous, c'est le besoin de discernement. Besoin de discerner. Nous ne voulons pas des sources, d'entendre des personnes qui se présentent comme des enseignants, mais qui finalement ne sont que des sources qui n'ont pas d'eau, des fontaines sans eau. Nous voulons la source, nous voulons remonter jusqu'à la source de l'eau vive et remonter jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Voilà ces hommes qui sont des fontaines sans eau. Et la quatrième chose que Pierre souligne ici, c'est que ces personnes déforment l'évangile de la liberté. Encore une fois, il s'attaque en particulier aux croyants mal affermis en leur promettant la liberté, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Et on peut voir un peu l'argument de ces personnes. Pierre, par exemple, écrit dans sa deuxième lettre, dans sa première lettre, pardon, au chapitre 2 et au verset 16, il dit ceci: étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Et ces personnes, ces faux docteurs, avaient raison, dans un sens, de parler de liberté. La liberté est au centre, au cœur du message de l'Évangile, de la foi chrétienne, mais c'est la liberté en Christ. Ce n'est pas la liberté, ce n'est pas la porte ouverte aux passions de la chair, parce que comme le dit Pierre, cela revient à de l'esclavage. La liberté chrétienne et le message de cette liberté que nous avons, c'est que d'une part, Christ est mort pour nous libérer de la culpabilité, de la puissance du péché. Que Christ nous a libérés de la loi et de la condamnation de la loi. Et que nous avons été régénérés en Christ. Nous ne sommes plus esclaves de la chair. L'Esprit de Dieu nous anime et nous fait aimer les choses qu'autrefois nous n'aimions pas. Et nous fait détester les choses qu'autrefois nous aimions. C'est le conflit de Paul, par exemple, en Romains chapitre 7. Mais partout où l'évangile de la liberté est annoncé, il y a des faux docteurs qui vont le déformer. Et ils vont trouver, par exemple, dans cette lettre de Pierre au chapitre 3 et au verset 16, quelque chose qu'ils vont utiliser comme une munition. Puisque Pierre écrit ceci, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Il parle de Paul, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Et ces personnes vont apprendre aux croyants mal affermis comment utiliser les écrits de l'apôtre Paul pour justifier de leur vie déréglée. Mais ils font exactement ce que Pierre dit, c'est qu'ils tordent le sens des Écritures comme ils le font des autres Écritures. Il tord le sens des lettres de Paul, comme ils font pour le sens des autres Écritures. Paul connaissait ce danger. Il écrit par exemple aux Galates et au chapitre 3 et au verset 15, « Frères, je parle à la manière des hommes, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. » Faire non, ce n'est pas la bonne référence. Mais ces faux docteurs faisaient, ils usaient de leur liberté, de cette liberté, pour justement se donner à l'amour de l'argent, à l'amour de la gloire, à l'amour du plaisir, des plaisirs de la chair. Et ils ont sans doute utilisé ce que Paul dit en Galates 5, verset 1. Mais encore une fois, en en tordant le sens, Paul écrit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais pour eux, il disait, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et donc, vivons, soyons libres. Faisons ce qu'il nous plaît. Mais Pierre écrit, et il dit que ces personnes tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Leur liberté est un esclavage de la chair. Ils promettent la liberté de Pierre 2, verset 19, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et Pierre va terminer ce passage, cette partie, avec cet avertissement au verset 20 à 23. Il y a deux choses que l'on peut retirer de ces versets. La première, c'est que celui qui connaît les choses au sujet du Seigneur Jésus-Christ, au sujet du salut, et qui ne se repent pas, sera sévèrement puni. Là, il reprend par exemple les propos mêmes du Seigneur Jésus-Christ. Quand Christ annonce, dit ceci en Matthieu 11, versets 21 et 22. Il dit « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. » Et si un médecin nous dit qu'il faut prendre un traitement pendant 10 jours, et si au bout de 5 jours, on se sent mieux et qu'on arrête le traitement, la condition redeviendra pire, puisque le traitement était pour 10 jours. Et donc, c'est aussi un appel à croire, à obéir jour après jour, pas simplement pour un temps et puis ensuite abandonner, mais pour la vie constamment, jour après jour. Mais la deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que Pierre n'enseigne pas que les enfants de Dieu peuvent perdre leur salut. Des membres d'église peuvent. Des membres d'église peuvent être perdus. Des membres d'église peuvent s'éloigner. Des personnes qui ont fait profession de foi, qui ont mis de l'ordre dans leur vie, peuvent renier le Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre cite ce proverbe, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. La truie s'est vautrée dans le bourbier. Et ceux qui abandonnent, entre guillemets, la foi, montrent qu'en réalité, ils ne l'avaient jamais. C'est ce que, par exemple, Jean dira dans sa première lettre au chapitre 2 et au verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et tout au long de la parole de Dieu, nous avons cela, le Seigneur lui-même, en Matthieu chapitre 10 et au verset 22, dit ceci, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Question de persévérance, la lettre aux Hébreux parle de cette persévérance, chapitre 3, verset 14, l'auteur dit ceci, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Et Paul, aussi dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 et 2, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Il n'y a pas de salut qui, sans persévérance, et cette foi se manifeste par la justice, par la fidélité, par l'obéissance à la parole de Dieu. Mais il y a aussi cette réalité que Dieu garde les siens. Pierre, je vous le rappelle, nous écrit afin que nous affermissions notre vocation et notre élection. Affermir votre élection. Si l'élu, si un élu pouvait être perdu, il n'y aurait aucun avantage à affermir notre élection. Mais ceux que Dieu a choisis ne seront jamais perdus. Et Pierre nous encourage donc à affermir notre élection. Et il écrit cette lettre dans ce but. Il l'a fait de manière positive au chapitre 1er. Il le fait de manière plus dure dans ce deuxième chapitre. Il avertit, il condamne, il avertit qu'il y aura, comme il y a toujours eu, et il y aura encore, de faux docteurs, de faux enseignants. Il avertit et il met en garde de ne pas suivre ces personnes qui renient le maître, qui n'admettent aucune autorité, qui méprisent même l'autorité. Ils nous gardent, ils nous mettent en garde d'être enflés d'un orgueil spirituel, d'être enflés et de croire que nous sommes suffisants en nous-mêmes. Ils nous mettent en garde de déformer la parole de Dieu, de déformer les Écritures, puisque cela serait pour notre ruine. Ces personnes qui déforment l'Écriture au nom de la liberté chrétienne. Ce n'est pas un chapitre facile, ce n'est pas un chapitre agréable. Et pourtant, donc, il y a des leçons à apprendre. Pierre condamne de tels hommes, de telles pratiques, et nous exhorte à veiller afin de ne pas ressembler à ces personnes, mais à être affermis dans la vérité, à être affermis sur Jésus-Christ, le rocher, le seul qui ne peut changer. Que Dieu nous aide donc à comprendre cela, qu'il nous aide à apprendre ces leçons et qu'il nous aide à vivre pour sa gloire et à être nous-mêmes toujours plus affermis dans notre élection et dans notre vocation. Amen.